MCI TV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de « Bonjour chez vous ». Nous espérons que depuis le début de la semaine, vous êtes connectés à différentes émissions que nous avons pu vous proposer jusqu'à présent. Des émissions qui, moi, personnellement, j'ai trouvé très bénissantes et j'espère que vous aussi. Aujourd'hui, on parle de la volonté de Dieu. Sais-tu discerner la volonté de Dieu pour ta vie au milieu de tous les projets qui se présentent à toi? Sais-tu savoir où est-ce que Dieu t'appelle à être? C'est le sujet dont je vais pouvoir discuter aujourd'hui avec deux grands hommes de Dieu, Omer et Pasteur Eladj. Bonjour à vous deux.
Ça fait plaisir d'entendre ça. Merci Nadine.
Mais ça fait plaisir de le dire parce que c'est la vérité. Ça fait plaisir de le dire parce que c'est la vérité. C'est vraiment la vérité. Deux hommes de Dieu que je respecte beaucoup.
Merci.
Et Pasteur Eladj, tu as fait avec nous une émission lundi sur le cultiver la présence de Dieu. Une très très belle émission. Et aujourd'hui, tu vas faire un conseil du coach.
Oui, conseil du coach, encore là, parler de comment discerner la volonté de Dieu pour votre vie.
Oui, comment discerner la volonté, parce que c'est une question qu'on se pose. Des fois, on ne sait plus par où y aller. Tous les projets nous semblent bons. Est-ce que Dieu m'appelle là ou est-ce que Dieu m'appelle à gauche ou à droite? Ça peut être des fois, on peut être confus vraiment, et c'est important de savoir discerner cette volonté. Et tu vas pouvoir...
Surtout avec toutes les voix étrangères.
Oui, tu vois, j'avais dit que la profondeur, je sens déjà juste en intro la profondeur. On va pouvoir avoir ça tout à l'heure avec toi, Pasteur Eladj. Mais avant, on va commencer avec toi, mon cher époux. Tu es prêt?
Toujours.
Toujours prêt. On va commencer avec Omer dans la pensée du jour.
Il est très important d'apprendre à discerner la volonté de Dieu, car la volonté de Dieu, c'est la meilleure des choses, c'est la meilleure version de votre vie, voilà, que Dieu a pour vous ici sur la terre. Matthieu chapitre 6, le verset 10. Curieusement, lorsque les disciples demandent à Jésus de leur apprendre à prier, Jésus leur dit, eh bien, lorsqu'ils prient dans le Notre Père, au verset Matthieu 6, 10, ils doivent dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, Jésus a emmené les disciples, en fait, a emmené le sujet de la volonté de Dieu au centre de leur vie, au centre de leur vie, même de prière, parce que la prière pour un juif était la chose la plus importante. Il dit au cœur de cette prière, une fois qu'on a sanctifié le nom de Dieu, une fois qu'on a souhaité que son règne vienne, eh bien la seconde chose qui vient, ce n'est pas de lier l'ennemi, ce n'est pas de demander du pain, mais c'est de prier que la volonté de Dieu, qui va affecter tout le reste de notre vie, soit manifeste dans notre vie. Alors, question, pourquoi est-ce que la volonté de Dieu est importante? J'aimerais donner 5 raisons pour lesquelles elle est importante, et Pasteur Eladj pourra nous montrer comment, justement, discerner la volonté de Dieu. Eh bien, la volonté de Dieu est importante parce que lorsque nous prions la volonté de Dieu, nous aurons la tendance d'être au bon endroit, au bon moment. Ce qui nous permet aussi dans la vie d'éviter certaines balles perdues. Voilà, être au bon endroit, au bon moment. Avoir une vie synchronisée avec l'agenda de Dieu. Numéro 2, quand on est dans la volonté de Dieu, ça nous permet de saisir la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu est dans sa volonté. La Bible nous dit qu'au temps d'Isaac, il y a eu la famine comme au temps d'Abraham. Dieu lui a dit, reste dans le désert, sème. Isaac est resté, Isaac a semé, et dans une situation économique très difficile, la Bible dit qu'Isaac a prospéré. La volonté de Dieu vous fera toujours prospérer dans des moments difficiles ou à des endroits où vous ne pensez pas que vous allez pouvoir émerger. Elle emmène la bénédiction. Troisième des choses que la volonté de Dieu va faire dans votre vie, eh bien celle-là, vous allez beaucoup l'aimer, elle vous permet d'éviter des combats inutiles dans votre vie. Il y a beaucoup de combats que nous avons, des situations. En réalité, c'est parce que nous sommes hors de la volonté de Dieu. Nous sommes partis dans notre propre volonté, comme le prophète Balaam était parti dans sa propre volonté et il a mal terminé. Et tant de gens ont l'impression que le diable les attaque, alors que c'est eux-mêmes qui sont sortis hors de la volonté de Dieu et qui ont des combats inutiles. Le Seigneur les appelle aujourd'hui à retourner simplement sur le chemin de la volonté. Troisième des choses, eh bien, la volonté de Dieu fera de nous une source de bénédiction pour les autres. Quand l'apôtre Paul est entré dans la volonté de Dieu pour sa vie, eh bien aujourd'hui nous avons les écrits de l'apôtre Paul, nous avons aujourd'hui qu'il a été en bénédiction à toutes les églises qui étaient dans sa génération pour être une source de bénédiction au maximum de personnes. Priez que la volonté de Dieu se manifeste dans votre vie, marchez dans la volonté de Dieu et finalement, la volonté de Dieu permettra au projet de Dieu dans votre vie et dans votre génération de s'accomplir au travers de vous. Vous deviendrez un instrument. Et Marie pria ce jour-là lorsque l'ange lui a annoncé la bonne nouvelle. Il a dit qu'il me soit fait selon la volonté de mon Seigneur. Que cela soit votre partage.
Amen, amen. Merci beaucoup pour cette belle pensée. C'est vrai, Marie a dit qu'il me soit fait selon sa volonté. Et c'est une prière à faire, en fait, une déclaration à faire devant les situations. Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Parce que comme Omer l'a dit, et on va en parler aujourd'hui, c'est que Dieu a une volonté pour chacun de ses enfants. Dieu a une volonté pour vous. Et il y a des choses, des projets peut-être qui peuvent se présenter devant vous, qui sont aussi bien. Mais tant que vous n'êtes pas dans la volonté parfaite de Dieu, ça peut être compliqué. On peut, comme tu l'as dit, avoir des combats inutiles ou ne pas tout simplement briller autant et être vraiment où Dieu nous veut, donc maximiser même tout ce qu'on est en train de faire. Je pense à Philippe, lorsqu'il va voir cet eunuque éthiopien, ça semble bizarre. Ça n'a pas l'air d'être de la volonté de Dieu. Il est là dans le désert, etc. Parce qu'aujourd'hui, des fois, on pense que la volonté de Dieu, c'est que tout ce qui est flashy, qui a beaucoup de rayonnement, etc. Mais alors que Philippe est là, le fait qu'il ait rencontré cette personne, une seule personne, cet eunuque éthiopien, ben voilà, il a pu lui annoncer l'évangile et l'évangile est arrivé jusqu'en Éthiopie. Et des fois, il y a certaines personnes, peut-être vous êtes dans une saison où vous êtes dans la volonté de Dieu, mais ce n'est pas aussi extravagant. Vous êtes dans la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu, c'est de vous occuper de vos enfants. Vous êtes dans la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu, c'est d'être dans un département, à l'église peut-être qui est plus discret. C'est peut-être au travail, c'est peut-être au niveau de votre famille de briller au sein de votre famille qui ne connaît pas le Seigneur. Et ça n'a pas l'air flashy, mais parce que vous êtes dans la volonté de Dieu, il y a une résultante en fait qui va sortir de là. Et vraiment, soyez encouragés à demeurer ferme dans cette volonté, même si ça n'a pas l'air extraordinaire. Et notre verset du jour aujourd'hui se trouve dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 17. Éphésiens 5, 17, un verset qui m'a fait sourire lorsque je l'ai lu encore hier. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Et dans ce verset, on comprend que si on n'est pas dans la volonté de Dieu, si on ne veut pas recevoir, on ne veut pas chercher à discerner, parce qu'aujourd'hui, on parle de discerner sa volonté, on est carrément déraisonnable. Dans d'autres versions, ça dit stupide, en fait, quand on ne recherche pas la volonté de Dieu. Personne ne veut rebondir sur ce que j'ai dit. OK, d'accord.
En fait je rebondis sur ce que tu as dit précédemment. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance, c'est la volonté de Dieu. Je suis sur une grande plateforme, je suis sûr. Mais en fait, Dieu a besoin de toutes sortes de personnes à toutes sortes d'endroits. Vous savez, c'est comme quand on construit une maison, on a besoin des maçons, on a besoin des électriciens, on a besoin de gens à toutes sortes de niveaux, parce que le but, à la fin de la journée, c'est que l'édifice soit construit. Et la volonté de Dieu, c'est pas toujours nécessairement quelque chose qui va, au départ, emmener un effet positif. Moi, j'imagine, quand l'ange est venu voir Marie et lui a annoncé, ben, tu vas être enceinte. Premièrement, elle s'attend pas à être enceinte déjà pour commencer. Elle est en train d'essayer de rentrer comme dans des fiançailles, dans le mariage. Là, elle dit, oh, OK, est-ce que ça veut dire que, ben, moi, mon mariage sera? Et puis finalement, ben, l'ange est obligé d'aller collaborer avec Joseph parce que Joseph aussi doit collaborer avec la volonté de Dieu. Parce qu'on pense que pour que Jésus vienne, c'est seulement Marie qui doit être d'accord. Non, Joseph aussi doit collaborer. Amen. Ça prend deux personnes qui vont collaborer pour que cette volonté se manifeste. Et là, Marie devient enceinte, mais le regard de la communauté, pour un temps, c'est un temps d'abaissement. C'est comme si elle a raté sa vie, c'est comme si elle a amené la honte à sa famille. Mais le fruit de cette obéissance va produire un homme qui va transformer toute l'histoire de l'humanité. Donc, je voudrais parler à quelqu'un qui, peut-être pour une saison, tu n'es pas connu, pour une saison, tu es abaissé, pour une saison, peut-être parce que tu as obéi à des conséquences qui semblent ne pas être plaisantes. Je ne veux pas dire négatif, mais pas plaisante. J'aimerais juste dire que c'est une saison. Et cette saison finira par passer et quelque chose de glorieux va sortir de cette saison assez particulière que tu vis, et tu verras un jour, tu rendras gloire à Dieu et tu remercieras même le Seigneur de t'avoir choisi.
Ouais. Je suis vraiment béni par ce que Pasteur Romer il dit à l'égard d'Isaac également. Comment la volonté de Dieu, des fois, ça ne fait pas du sens ça ne fait pas du sens à nous-mêmes, des fois, mais aussi notre entourage. Comme tu l'as dit, ça peut être des petites choses, des petites... Ah, peut-être il faut que je fasse des choses plus grandes. On a cette tendance de poursuivre la grandeur. Et on a une terminologie du succès qui est un peu différente de celle de Dieu. Dieu peut dire à quelqu'un, sème dans le désert. C'était pendant la famine quand Dieu a parlé à Isaac de planter une semence. Ça ne fait pas de sens. Dans le désert et pendant la famine, je vais sauver ce que j'ai. Je vais épargner mes grains. Et Dieu dit, fais-le. Donc ça, c'était sa volonté qui l'a amené à être prospère à tout égard. La même chose pour Marie dont tu parlais. Dieu nous demande des fois de faire des choses qui sont sa volonté, qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas des choses qu'on aurait pensé être, on aurait pensé faire. Mais si nous obéissons, on verra toujours le résultat. Et ce qui est encourageant, c'est de savoir que la volonté de Dieu est discernable. Elle n'est pas un mystère, elle est connue, elle est révélée. À la fois, Dieu veut nous parler et nous devons pouvoir, nous devons avoir la confiance de savoir que c'est possible de connaître la volonté de Dieu et de l'obéir et voir des grands résultats dans nos vies.
Oui, et l'importance d'avoir ce cœur-là qui te dit, qui se positionne aussi pour obéir. Je crois que c'est des fois, c'est là qu'il y a un souci, parce qu'on parle de discerner la volonté de Dieu, et des fois, on veut obéir lorsqu'on comprend tout, on veut obéir lorsque nous-mêmes, ça nous rejoint, dans nos aspirations personnelles, etc. Et donc, ça vient bloquer un petit peu notre réponse à la volonté de Dieu. Tu parlais de Marie. Ben, voilà un cas de quelqu'un qui a dit, qui a choisi de faire confiance à Dieu. Je pense aussi que l'obéissance aussi, ça provient aussi de la confiance qu'on a dans le Seigneur. Et le fait de savoir que, oui, il tient nos vies entre ses mains. Oui, c'est lui qui marche devant nous. Lui, il a une volonté pour nous. On n'est pas juste une personne de trop dans sa vie, dans laquelle on va faire nos projets nous-mêmes et on va l'associer de temps en temps, voilà, quand ça bloque. Oui, Seigneur, viens m'aider par rapport à ça. Mais vraiment faire les choses en l'envers, entre guillemets, parce que dans la vie de tous les jours, on veut contrôler nos choses. Mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est lui qui a le contrôle de nos vies et de dire, Seigneur, je veux me soumettre à ta volonté. Et peut-être que oui, moi, dans ma perception des choses, je vois des choses extraordinaires. Mais le Seigneur aussi est un Dieu qui travaille dans le processus et de lui faire confiance, mais et dans tout ce qu'il m'appelle à faire, m'y donner pleinement, en fait. Et vraiment, c'est ce qu'on veut vous encourager à faire, c'est de rechercher d'abord sa volonté, tout simplement, de vous disposer d'avoir un cœur qui dit « Oui, la volonté de Dieu veut s'accomplir dans ma vie. » Et quand vous êtes confus, quand il y a devant vous une foule de projets, comme la Bible dit qu'il y a une foule de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent, lorsqu'il y a une foule de projets devant vous, mais faites cette prière comme au psaume 84, Seigneur, mets dans mon cœur des chemins tout tracés, je m'appuie sur toi et je sais que tu vas mettre dans mon cœur des chemins tout tracés et que je ne vais pas tomber dans le piège de créer mes propres chemins. Il y a un chemin que c'est toi, le Seigneur, qui a mis et je vais pouvoir le découvrir et le suivre.
J'aimerais dire... excuse-moi.
J'ai dit deux hommes de Dieu, vous avez vu,
Pasteur Romain, tu es mon aîné, vas-y.
En fait, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est très important. Dieu nous a donné un cerveau, Dieu nous a donné un cœur, il nous a donné de l'intelligence. Et Dieu s'attend à ce que nous puissions planifier notre vie. Dieu, nous ne sommes pas assis de façon oisive. Non, nous prions, nous allons à l'église, mais nous devons planifier notre vie. Et voilà pourquoi le proverbe dit, il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets. Et remarquez que le proverbe ne dit pas que ces projets sont mauvais. Donc, je planifie ma vie jusqu'à ce que ma vie rencontre la volonté de Dieu et j'ajuste. C'est juste ce que j'aimerais rajouter parce qu'on croise beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas entreprendre en fait. Mais c'est très important de comprendre que nous devons avoir des projets, des plans, jusqu'à ce que je sais qu'à un moment donné, ben, mes plans et mes projets vont rencontrer la volonté de Dieu et cette volonté est la préséance.
On va aller dans la même direction. La Bible dit que Dieu ordonne les pas du juste et il tourne toutes choses aussi pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, comme pasteur disait, c'est vrai qu'il faut avoir la liberté de pouvoir entreprendre, mais avec toujours la pensée en arrière que Dieu est en train de guider mes pas. Juste à ajouter à ce que je voulais dire premièrement, rapidement, c'est le fait que nous devons être sincères. Parce que des fois, on connaît la volonté de Dieu, mais on ne veut pas la faire. On préfère faire la nôtre parce que c'est plus attirant. Les gens vont nous applaudir, on a l'air de réussir plus. Donc, il faut être sincère à savoir... Ça, c'est vraiment moi qui le veux. Je le mets de côté et je choisis la volonté de Dieu, comme Jésus-Christ l'a fait dans le jardin de Gethsémane. Pas ma volonté soit faite, soit la tienne soit faite. Et c'était pour prendre la coupe de la souffrance à la croix.
Amen. Amen. Un très bon point. Donc, pasteur Elage, on va rester avec toi. Tu vas nous enseigner à comment discerner la volonté de Dieu dans le conseil du coach.
Et comment discerner la volonté de Dieu? Quelle grande question. On va lire encore Éphésiens 5, 17 pour nous rafraîchir la mémoire. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. On l'a déjà dit, Pasteur Romer l'a mentionné et Nadine également. Il y a tellement de voix étrangères et il y a aussi souvent notre volonté personnelle. À la fin de la journée, on peut être vraiment un peu confus. Et aussi les opinions des gens que des fois qui deviennent notre réalité. Je vais essayer de vous partager 4 points simples et je sais que ça pourrait clarifier un peu les choses. Numéro 1, la parole de Dieu. 2 Pierre 1, 19-20 nous dit que « Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs. » Pierre a vu la démonstration sur la montagne de la Transfiguration. Il a vu des miracles. Mais il vient nous dire, au-delà des prophéties, des rêves et des visions, l'assurance la plus grande que nous avons, c'est la parole de Dieu. Amen. Et je vais encourager surtout les chrétiens aujourd'hui. C'est bien d'écouter des prédications de l'un et de l'autre, mais à la fin, ne laissez pas votre Bible dans la librairie oubliée avec l'état de poussière. Il faut que vous aussi rentrez à apprendre et à lire la parole de Dieu parce que c'est sa volonté pour toi et ta famille et ton destin. Alors, elle est sûre. Juste quelques petits conseils de ne pas faire. Ne jouez pas la roulette biblique. Je l'ai vu souvent, des chrétiens vont prendre la Bible, dire « Bon, je vais trouver la volonté de Dieu », ils ferment les yeux et puis ils mettent leurs mains, leurs doigts à un verset et ils le lisent « Oh, le Seigneur vient de me parler ». Ben, je l'ai fait quand j'étais plus jeune dans la foi. Et des fois, tu n'aimes pas le verset, tu refermes encore la Bible et puis tu essaies encore. Alors, Dieu peut parler à travers ces versets, mais je ne recommande pas ça pour pouvoir connaître la volonté de Dieu. L'autre chose qu'il faut faire attention, c'est de courir de prophète en prophète et de pasteur en pasteur, parce que nous avons notre propre volonté. Et tant que personne ne dit ça, on trouve qu'on n'est pas satisfait. Et des fois, on met la vraie volonté de Dieu à côté et nous cherchons des gens pour pouvoir rentrer avec nous dans la même direction pour appeler sa confirmation. Donc, faites attention, cherchez vraiment votre cœur et soyez sincères à savoir que si vous entendez la parole de Dieu dans les Écritures, conformez-vous à cette parole-là. Le deuxième point que je veux donner pour discerner la volonté de Dieu, c'est la paix de Dieu dans nos cœurs. Philippiens chapitre 4, verset 7 nous en parle vraiment très bien. Alors, quand on parle de la paix de Dieu, la Bible nous dit que la paix de Dieu, c'est notre arbitre. L'arbitre, c'est celui qui tient le sifflet. Des fois, on veut rentrer dans peut-être des affaires ou dans des contrats ou même dans des relations. Tu es en train de chercher une femme ou un homme ou simplement... quelle voie prendre pour le projet que tu es en train de poursuivre. Des petites choses simples aussi. Et tu entends ce sifflet-là qui sonne, où ton cœur devient troublé, à quelque part. Mais il faut obéir à ce sifflet-là. C'est lui l'arbitre. Quand l'arbitre siffle, on arrête tout. Quand l'arbitre siffle, on ne va plus là, dans la direction que tu prenais avant. Il m'est arrivé dans le passé où je voulais faire... un contrat d'affaires avec un monsieur. Et quand tu regardes ce monsieur, tout était parfait. Le projet, les affaires, c'était waouh, incroyable, ça va être une explosion, les revenus seront incroyables. Il n'y avait rien physiquement qui montre qu'il ne faut pas. Mais à l'intérieur de mon cœur, je me sentais troublé. Et je suis là pour être un témoin, pour dire, si tu désobéis à l'arbitre, tu as payé le prix. Donc, prenez mon exemple, quand vous entendez ce sifflet, peu importe ce que vos yeux vous montrent, ce que vos oreilles vous font entendre, comment est-ce que les choses ont l'air juteuses, prenez au moins une pause et prenez le temps. Parce que la paix de l'esprit dans ton cœur, elle doit être manifestée dans une place de repos. Donc, ne soyez pas pressés quand vous voyez ça. Et avant de passer au prochain point, surtout les relations. Tu as quelqu'un, tu veux marier, vous êtes en relation, ça fait un bon bout, le temps du mariage arrive, on s'approche de là et vous ne sentez pas la paix. S'il vous plaît, c'est mieux de prendre une pause que de rentrer dans la calamité. Donc, il faut obéir cet arbitre-là qui a le dernier mot. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9, Paul dit, une grande porte et un accès efficace mais ouvert pour l'évangile, mais mes adversaires sont nombreux. Voulant dire, des fois tu peux aussi être entouré par tout genre de calamités, mais il y a cette paix de Dieu dans ton cœur qui te donne l'assurance que Dieu est avec toi, Dieu est là-dedans. Donc, pour Paul, juste cette paix dans son cœur, bien vrai qu'il y a les ennemis. Ou David qui dit, bien vrai que je marche dans la vallée de la mort, je ne crains rien. Tu prépares une table pour moi au milieu de mes ennemis. Juste pour dire, ce n'est pas parce qu'il y a des obstacles, ça veut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu, comme le pasteur Omer avait mentionné. Mais c'est de chercher cette paix intérieure. C'est de donner son oreille à cet arbitre qui peut siffler à n'importe quel moment. Le troisième point que j'aimerais mentionner, c'est la multitude des conseillers. Proverbe 15, 22. La Bible dit, les projets échouent, faute d'une assemblée qui les délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Écoutez, frères et sœurs, quand un homme a un trésor, quand les hommes ont des trésors, ils les cachent dans des coffres forts ou dans des banques. Mais quand Dieu veut cacher quelque chose de précieux, il le met dans l'individu. Donc vous devez savoir qu'il y a des gardiens du conseil de Dieu. Comme, je pense que c'est Achitophel en français, dans 2 Samuel 16, 23. La Bible dit, les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que s'ils l'ont eu consulté Dieu lui-même. Donc, il y a des gardiens de la sagesse de Dieu que Dieu a mis autour de vous. Ça peut être vos pasteurs, ça peut être des parents, ça peut être des amis, des gens matures qui ont marché avec Dieu, qui ont vraiment cette sagesse-là que Dieu a cachée en eux, qui ont le conseil de Dieu. N'oubliez pas de consulter les gens. Quand vous prenez des décisions vraiment importantes, c'est toujours mieux d'avoir la multitude de conseillers. J'aimerais aussi dire que si, par exemple, c'est dans des affaires, demandez à des personnes qui ont de l'expérience dans les affaires. Même s'il ne prie pas jusqu'au matin et n'a pas l'air loin, mais Dieu lui a confié cette sagesse-là. Alors, il peut être un instrument pour vous aider à prendre les bonnes décisions, à sauver du temps et, comme Pasteur Omer avait dit, à éliminer des combats inutiles et à devenir une bénédiction pour votre génération. Alors, je pense que ça, c'est important. Dieu ne parle pas seulement à vous. Cherchez la confirmation autour de vous à des personnes que Dieu a confiées ses conseils. Numéro 4, les circonstances de la vie. Je pense que des fois, on ignore ce côté, mais il est aussi important que les trois autres points. Je vais donner un exemple pratique. Mon fils, il est en Alberta, bien tenu vraiment une grande bénédiction qu'on a au niveau de notre gouvernement. Une bénédiction que personne d'autre ne peut offrir au Canada pour le moment. Bon, Dieu me parle, il faut que tu déménages à Montréal. Bon, je ne peux pas laisser, par exemple, mon fils en Alberta. Bien vrai que Dieu a dit cette parole. Vous voyez, les circonstances font que, bien vrai que Dieu a parlé, je dois attendre le temps de Dieu. Soit une guérison totale de mon fils qui me permet de pouvoir déménager, ou à une provision surnaturelle financière qui me permet de pouvoir prendre le fardeau que le gouvernement aujourd'hui prend. Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. Les circonstances sont importantes et Dieu les utilise des fois pour nous garder où nous devons être jusqu'au moment arrivé pour partir. Donc, quelqu'un pourra prendre les bagages et aller en Chine parce qu'il a eu un rêve, une vision, qu'il avait un ministère en Chine. Et immédiatement partir sans consulter les circonstances. Peut-être que tu laisses ta famille, mais qui va pourvoir pour eux? Vous voyez? Donc, il faut vous rassurer. À tout point et égard, ne négligez pas les circonstances que Dieu utilise des fois pour nous dire son temps ou son timing. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 8, 28 que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Regardez l'exemple, par exemple, de Joseph. Mais il entend la parole prophétique même deux fois dans le rêve qu'il sera premier ministre en Égypte, qu'il mettra fin à la famine, qu'il va sauver le monde d'une crise financière. Mais Joseph ne pouvait pas se lever tout d'un coup et courir aller en Égypte, vous voyez. Les circonstances ne lui permettaient pas. Et Dieu a mis un plan en place pour pouvoir l'amener à où il devait être. Donc peut-être que tu as reçu une parole prophétique. Rassure-toi, numéro 1, de tester avec les Écritures. Tu sais, quand quelqu'un te dit, cette femme que tu as mariée, elle n'est pas la tienne, tu devais marier quelqu'un d'autre. Les Écritures défient ces points. Donc, que ce soit un ange qui est apparu pour te parler ou le prophète des prophètes, tant que les Écritures sont violées, cette prophétie ne vaut pas la peine, il faut la mettre en dehors. Parce que la prophétie suprême qui ne partira nulle part, elle est établie sur la terre et dans les cieux, c'est la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est la plus grande parole prophétique. Numéro 2, il faut toujours être sincère avec la paix de son cœur, cet arbitre qui est l'Esprit Saint qui nous parle et qui nous guide et qui a le point final. Numéro 3, important, la multitude des conseillers autour de vous. C'est important de savoir que Dieu a confié de la sagesse et des conseils aux individus qui vous entourent. Et numéro 4, les circonstances de la vie qui vont permettre de savoir, oui, Seigneur t'a parlé, mais quand? Quel est le bon moment? Parce qu'il rend toutes choses belles en leur temps. J'espère que quelqu'un a été béni et que vous pouvez utiliser ces points pour vous aider à discerner la volonté de Dieu.
Amen. Merci beaucoup, Pasteur Eladj. Grand homme de Dieu, merci.
Je confirme, je valide. Les circonstances
sont trop gentilles.
Merci énormément pour ce que tu as apporté. Je crois que ça va aider quelqu'un qui se pose la question comment discerner la volonté de Dieu. Et merci d'avoir même fait le recap après à la fin, les quatre points, la parole de Dieu, la paix du Seigneur, les circonstances, la multitude de conseillers. Les points sont là pour vous aider à discerner sa volonté. Oui, Dieu est bon, Dieu a des choses pour vous. Il veut que vous puissiez les saisir. C'est tout simplement de discerner aussi le bon moment, le bon temps et d'avoir ce cœur obéissant, comme tu l'as dit aussi, Omer, dans ta pensée. Merci aussi pour ta contribution, grand homme de Dieu. Je suis entourée de grands hommes de Dieu.
Et d'une grande femme.
D'accord, de
bon,
Dieu.
Vous avez compris, là, parce que le retour ne venait pas. On va se retrouver demain. Nous arrivons au terme de notre émission en espérant que vous avez apprécié. Demain, nous parlons de la foi. Garde un cœur d'enfant par rapport à ta foi. Et Omer sera là, ainsi qu'Annabelle. Alors, on se dit à demain. Soyez bénis et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.